France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. La défense des emplois au cœur de la fête du travail. Beaucoup de monde, notamment à Dunkerque, autour des salariés d'ArcelorMittal, qui a annoncé un plan social. Les appels à nationaliser l'entreprise ont fusé, compte rendu de Wafia Kenich. Au meeting du RN à Narbonne, discours très offensif de Marine Le Pen. Elle appelle ses partisans à se mobiliser en vue des élections municipales. L'occasion, selon elle, de se lever contre une entreprise de confiscation de la démocratie. Explication sur place d'Antoine Marette. Le plus influent chef religieux druze en Syrie dénonce une campagne génocidaire contre sa communauté. Des combats entre druzes et groupes armés liés au pouvoir ont fait plus de 100 morts. En deux jours, nous ferons le point avec Noé Pignied. Et puis Washington est pressé de négocier avec la Chine sur les droits de douane selon Pékin. Mais dans l'immédiat, les géants chinois du e-commerce s'inquiètent de l'entrée en vigueur d'une taxation à 90% des petits colis. En ce 1er mai, journée de mobilisation des salariés, on a perçu dans les cortèges la préoccupation que suscite la recrudescence de plans sociaux. Et la direction d'ArcelorMittal à Dunkerque est particulièrement pointée du doigt. Il y a une semaine, le groupe sidérurgique a annoncé la suppression de plus de 600 postes dans ses sites du Nord et de l'Est. De nombreux élus, principalement de gauche, sont donc allés aujourd'hui à Dunkerque pour défiler aux côtés des ouvriers du site. Certains demandent une convocation devant une commission d'enquête parlementaire de la direction du groupe. D'autres annoncent le dépôt dans les prochains jours d'une proposition de loi de mise sous tutelle pour les élus et les syndicats. Wafia Kenich, le groupe doit rendre des comptes.
À commencer par les élus du territoire comme Franck Dersin, sénateur du Nord et conseiller régional des Hauts-de-France. Cet homme de droite n'élude pas les difficultés du secteur de l'acier au niveau mondial, mais soupçonne le groupe Arcelor d'être en train d'abandonner le site de Dunkerque en refusant tout nouveau projet d'investissement, notamment pour mettre l'usine aux normes environnementales.
Nous avions à Dunkerque un projet avec ArcelorMittal d'1,750 milliard d'euros, dont 850 millions d'euros d'aides qui n'ont pas encore été versées. Si ils ne veulent pas décarboner, ça veut dire qu'ils ne veulent plus investir dans l'outil. Donc à ce moment-là, je suis un homme de droite et je n'ai pas peur de le dire, il faut nationaliser pour pouvoir décarboner et puis revendre une fois que, je dirais, cette usine est mise aux normes. Oui, je suis d'accord avec ce que disent les syndicats, une partie de la gauche, il y a eu des profits distribués. Donc il y a là quelque chose d'immoral et de tout à fait anormal économiquement.
La CGT réclame aussi la nationalisation d'Arcelor et également, comme le demande sa dirigeante Sophie Binet, une conditionnalité des aides publiques.
Il faut que ces aides publiques soient conditionnées à l'interdiction des licenciements et puis au fait que ces aides publiques ne doivent pas s'évaporer dans la rémunération des actionnaires. Jamais on a distribué autant de dividendes dans le monde, en France et en Europe.
Toujours selon Sophie Binet, ArcelorMittal prépare son départ de France pour relocaliser ses activités en Inde et au Brésil.
Wafia Kenich. À Marseille, quelques 3600 manifestants se sont rassemblés sur le Vieux-Port, selon les chiffres de la préfecture de police. L'occasion pour beaucoup de dire leur colère contre la réforme des retraites, Mathilde Vinceneux.
Un cortège dans une ambiance plutôt festive où l'on distribue des brins de muguet sur les pancartes. Pas de revendication unanime, mais la réforme des retraites revient souvent dans la bouche des manifestants. Naïma est enseignante à la retraite avec son mari Marc. Ils étaient dans tous les cortèges contre cette réforme qu'ils disent scandaleuse. 64 ans pour tout le monde, c'est trop, dit Naïma.
Je pense que moi, j'aurais pu travailler jusqu'à 64 ans. Mais je pense pas toujours à moi, en fait. Moi, je pense au monde qui m'entoure, aux ouvriers, aux gens qui travaillent dans les usines, même aux gens qui sont dans des bureaux mais qui ont des charges mentales.
Bon, on aimerait, par exemple, que ma fille, qui a 23 ans, elle puisse partir dans de bonnes conditions, avec pas partir à 70 ans, mais partir... Moi, je pense que 62, c'est bien, quoi.
Pour Marc, même si la concertation sur les retraites est toujours en cours, inutile d'espérer, il n'en attend plus rien.
C'est pas une vraie concertation. Beaucoup de syndicats ont quitté la table. La meilleure solution, c'est par le vote de changer de gouvernement et de changer à l'Assemblée nationale.
Dans le cortège, beaucoup dénoncent les efforts demandés pour réduire le déficit de la France, les coupes budgétaires. Il faut arrêter de trop en demander aux travailleurs, conclut une autre manifestante.
Mathilde Vinceneux à Marseille pour France Culture. La CGT annonce une nouvelle journée de manifestation et de grève le 5 juin pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. Selon le syndicat, plus de 300 000 personnes ont défilé aujourd'hui en France, dont 10 000 à Paris. À noter que 29 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation parisienne. Des militants et élus socialistes ont été bousculés par des manifestants habillés de noir, hostiles à leur présence. Le chef de file des députés PS, Boris Vallaud, dénonce des violences graves et inacceptables et compte saisir la justice. Nous allons un instant en Turquie où les célébrations du 1er mai ont été très surveillées. Après les vagues de manifestations du mois de mars en réaction à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan, le pouvoir a verrouillé la mégalopole, particulièrement les abords de la place Taksim que les étudiants voulaient envahir. Plus de 50 000 policiers ont été déployés aujourd'hui à Istanbul où il y a eu plusieurs centaines d'arrestations, Marie-Pierre Véraud.
Une ville sous cloche, cadenassée par de multiples barrières métalliques, un très imposant dispositif policier, la place Taksim, emblème des protestations grillagées, et des touristes valises en main, en galère sous une pluie glaciale.
J'ai essayé d'aller à l'aéroport, mais toutes les rues sont fermées et il n'y a pas beaucoup d'informations. Mais il faut marcher beaucoup. C'est difficile de savoir quoi faire comme touriste, non? Bon, il y a beaucoup de barricades, beaucoup de police, et ils sont fermés aussi les métros, les ferries sont fermés, l'autobus sont fermés. C'est vraiment un peu fou.
Seuls des hélicoptères sillonnent le ciel. Emre, 22 ans, écrase une cigarette en regardant les camions de la police anti-émeute.
Tout est bloqué, vous ne pouvez circuler nulle part dans cette ville. La police est partout, la place Taksim est verrouillée. Je pense qu'ils ont peur d'un soulèvement. Au début des manifestations, j'avais de l'espoir, mais malheureusement je l'ai perdu. L'autoritarisme ne cesse de gagner du terrain.
Ici et là, de petits groupes tentent de forcer les barrages. Le quotidien Birgün en publie des vidéos. Des associations font état de plusieurs centaines d'arrestations, dont une dizaine d'avocats qui suivaient les manifestants. L'opposition, elle, a rejoint les syndicats Kadıköy sur la rive asiatique et interpelle le président. Mais dans le centre d'Istanbul, l'ambiance est loin d'être celle de la fête qu'elle appelait de ses voeux.
Marie-Pierre Véraud, correspondante de France Culture à Istanbul. Nous revenons en France où le Rassemblement National a tenu un meeting cet après-midi à Narbonne, terre de conquête pour le RN. Plusieurs milliers de sympathisants ont répondu présents et vous êtes sur place. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont tous les deux exprimés et la triple candidate à la présidentielle est revenue sur sa condamnation dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du parti, condamnation qui menace sa candidature pour 2027.
Et c'est sur cette musique, la musique de la dernière présidentielle, que Marine Le Pen fend la foule jusqu'à la scène de l'Arena. Celle qui est pour le moment inéligible prononce un discours social sur la fermeture des usines et la saignée sociale, 1er mai oblige, puis elle revient sur son cas personnel.
Depuis bientôt 30 ans, je lutte chaque jour sans compter mes efforts pour vous rendre justice. Depuis 30 jours, c'est pour mon honneur et pour mon innocence que j'ai dû m'engager dans une nouvelle bataille. Avec pour seul horizon la possibilité de vous représenter dans 2 ans à la prochaine élection présidentielle. Ce combat pour la justice, ce combat pour la démonstration de notre innocence, vous pouvez être certain d'une chose, je vais le mener avec toute l'énergie que vous me connaissez.
Ils veulent vous voler la victoire de 2027, mais ils n'y arriveront pas, prévient Marine Le Pen, qui appelle à la mobilisation pour les municipales de 2026, rebaptisée la bataille des communes. Jordan Bardella, lui, ne fait aucune allusion à la condamnation de Marine Le Pen. Il n'évoque d'ailleurs que très peu la chef de file des députés RN, préférant s'attarder sur Jeanne d'Arc, Jordan Bardella qui assume pleinement sa sensibilité identitaire.
Narbonne est la plus ancienne colonie romaine en Gaule. Narbonne, c'est aussi nos racines chrétiennes et européennes profondément ancrées dans le paysage. Ici, autour de nous, les clochers se dressent entre les vignes et les collines. Les abbayes veillent sur les plaines et le souffle des prières anciennes semble flotter encore entre les cyprès et jusqu'au littoral. Pour le dire plus simplement, mes amis, Narbonne est un reflet de l'âme de la France.
Jordan Bardella, identitaire, conservateur et libéral, tente de séduire les anciens électeurs de Nicolas Sarkozy, célébrant la France qui se lève tôt et se couche tard, pourfendant l'écologie de la sanction, le gaspillage de l'argent public. Jordan, on t'aime, scande la foule. Cette même foule qui criait quelques minutes plus tôt Marine présidente. Le plan A Marine Le Pen et le plan B Jordan Bardella se sont succédés cet après-midi sur cette scène à Narbonne, tout en semblant s'ignorer. Mais au RN, on le répète à l'envi, il s'agit de complémentarité et non pas de rivalité.
Merci Antoine Marette, en direct de Narbonne avec Julien Girard à la technique. Un ancien professeur d'un lycée militaire de la Sarthe, interpellé dans le cadre d'une enquête pour viols et agressions sexuelles. L'homme, désormais en retraite et âgé de 76 ans, a exercé pendant plus de 30 ans dans le lycée du Prytané, un établissement situé à La Flèche qui compte 550 élèves, lycéens et étudiants. Le parquet du Mans a demandé la mise en examen de cet homme avant sa présentation à un juge d'instruction et le ministère des Armées a également réagit Florence Turm, disons assurer toutes les victimes de son soutien.
Cette interpellation est le fruit d'une enquête minutieuse et approfondie, précise le parquet du Mans. Des investigations lancées depuis des mois après les plaintes déposées par plusieurs anciens élèves de l'établissement. Le professeur, un civil alors détaché de l'éducation nationale, est soupçonné d'avoir violé ou agressé sexuellement une dizaine de lycéens âgés de 15 à 17 ans, des mineurs donc, durant près de 20 ans entre 1990 et 2009. Des accusations d'une exceptionnelle gravité soulignent le ministère des Armées dans un communiqué où il assure coopérer avec la justice en mettant tout en œuvre pour faire la lumière sur les faits. L'ensemble des archives utiles à l'enquête a été mis à la disposition de la justice et le ministère des Armées a d'ores et déjà déclassifié des informations datant des années 90. Car l'enquête va se poursuivre sous l'autorité d'un juge d'instruction afin d'évaluer l'ampleur des faits susceptibles d'avoir été commis par le mis en cause et d'identifier d'autres victimes potentielles. Le chef des L'état-major de l'armée de terre a d'ailleurs adressé un courrier aux anciens élèves pour inviter ceux qu'ils souhaitent à prendre la parole ou à se signaler aux autorités judiciaires. À ce stade, l'association des anciens élèves du Prytané n'a pas souhaité réagir. Enfin, en parallèle de cette enquête préliminaire, l'inspection générale des armées de la gendarmerie a engagé, elle, une enquête administrative pour évaluer les responsabilités éventuelles de l'encadrement et du commandement du Prytané.
Florence Thuram. La France condamne les violences confessionnelles meurtrières à l'encontre des Druzes en Syrie. Après deux jours de combats en banlieue de Damas et dans le sud du pays, des heurts entre des Druzes et des milices islamistes, le bilan dépasse les 100 morts. Bonsoir Noé Pignède.
Bonsoir.
La plus haute autorité de cette minorité, qui représente à peine 3% de la population syrienne, dénonce une campagne génocidaire, Noé, et s'en prend au nouveau gouvernement.
Oui, le chef religieux des Druzes en Syrie attaque violemment le nouveau président Ahmed al-Shara. Il l'accuse d'avoir eu recours à des milices extrémistes pour tuer son peuple et demande l'intervention immédiate de la communauté internationale. Il ajoute qu'il ne reconnaît plus l'autorité du gouvernement. De son côté, le pouvoir syrien affirme que les forces de sécurité font tout pour protéger la minorité druze et que les assaillants sont des groupes hors la loi. Le problème, c'est que ces groupes djihadistes intégrés à la nouvelle armée syrienne après la chute de Bachar el-Assad sont censés être sous son contrôle. En mars dernier déjà, des djihadistes avaient massacré 1700 personnes, cette fois issues de la communauté alaouite, une autre minorité syrienne. Et à l'époque déjà, le président Ahmed al-Shara avait tenu le même discours d'apaisement et d'unité entre les différentes communautés. Les nouvelles violences de ces dernières 48 heures démontrent qu'il est totalement dépassé par sa frange la plus radicale et qu'il ne contrôle pas vraiment son pays.
Noé Pignède. À Khartoum, au Soudan, le palais présidentiel a été bombardé par les paramilitaires en guerre contre l'armée. C'est leur deuxième frappe en une semaine sur la capitale soudanaise. Kiev et Washington ont scellé un accord sur l'exploitation de minerais, de pétrole et de gaz ukrainien. C'est l'aboutissement de semaines de difficiles négociations parallèlement aux tractations diplomatiques pour trouver une issue au conflit déclenché par la Russie il y a 3 ans. Alors comment la nouvelle de cet accord est-elle accueillie en Ukraine par ceux qui défendent leur pays? Isabelle Labéry s'est rendue au poste médical avancé de la 157e brigade sur le front de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine.
Depuis la route, la maison semble à moitié détruite, abandonnée. Mais dans la cour, sous l'ombre changeante d'un filet de camouflage, Yuri, médecin en casque étrillé, il attend les blessés du jour. L'accord sur les minerais, le fonds d'investissement, il en a entendu parler. mais vaguement.
C'est 50-50, non? Oui, c'est une bonne solution, si ça marche, c'est bien. Mais l'argent, on en a besoin maintenant, pour la guerre, plutôt que de réfléchir à ce qui se passera après.
Une ambulance vient livrer quelques poches de sang. Au loin, des explosions sourdes. Ziat, chargé d'évacuer les blessés les plus lourds vers les hôpitaux de l'arrière, ne comprend pas pourquoi cet accord entre Kiev et Washington est passé avant les vraies urgences.
Si on nous fournissait tout, les munitions, les armes, tout, et si on équipait tous les militaires, là ce serait super, et ça permettrait que la guerre s'arrête. Mais ils ne nous donnent rien de tout ça. Et c'est toujours la paperasse, et ils détournent l'argent. C'est ça le problème, vous comprenez ?
Après 3 ans de guerre, les mêmes pénuries, les mêmes difficultés sur le front, sans compter l'augmentation vertigineuse du nombre de blessés par drone. Si les soldats ukrainiens imaginent un accord, c'est d'abord un accord de paix et sans condition.
Reportage d'Isabelle Labéry et Fabien Gosset avec Yachar Fazilov. C'est le premier remaniement majeur au sein du cercle de Donald Trump depuis son retour au pouvoir. En janvier, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Mike Waltz, va quitter ses fonctions. Il est en difficulté depuis une affaire de fuite d'informations sur des frappes militaires américaines contre les Houthis au Yémen. Information partagée par erreur avec un journaliste. Donald Trump affirme qu'il y a de très fortes chances que Washington parvienne bientôt à un accord avec Pékin sur le commerce. Mais en attendant, d'importantes surtaxes douanières s'appliquent d'un côté comme de l'autre. Et un décret américain qui entre en vigueur demain va porter un nouveau coup à l'économie chinoise. Les petits colis arrivant de Chine seront désormais taxés à 90%, ce qui va pénaliser très sérieusement les géants chinois du e-commerce comme Shine ou Temu. Explication de notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot.
Avec la fin de ce régime de faveur pour les petits colis, c'est tout un pan de l'économie chinoise qui se retrouve fragilisé. Les géants du commerce en ligne ont bâti leur succès sur les exonérations de droits de douane en expédiant chaque jour aux États-Unis des centaines de milliers de colis. Derrière les applications les plus connues comme Temu ou Shein, il y a tout un écosystème qui est désormais menacé. Par exemple, dans une ville comme Canton, des centaines d'ateliers de confection travaillent comme sous-traitants. Un quartier entier est même surnommé le village de Chine. Il vit entièrement grâce à la célèbre enseigne et ses exportations, notamment vers les États-Unis. Avec les nouveaux droits de douane, les clients américains vont voir les prix des vêtements augmenter fortement, les commandes risquent de diminuer et mécaniquement les ateliers chinois devront renvoyer une partie de leur personnel. Et il n'y aura pas d'échappatoire possible. Toutes les marchandises fabriquées en Chine et à Hong Kong seront taxées, même si le colis est expédié depuis un autre pays. Pour l'économie chinoise, cela représente près de 45 milliards de dollars d'exportation annuelle au devenir désormais incertain.
Sébastien Berriot à Pékin. En Corée du Sud, près de 25 millions de cartes SIM ont été piratées. L'opérateur téléphonique SKT a été victime d'une attaque informatique permettant aux malfaiteurs d'usurper les numéros et identifiants des clients. L'entreprise leur a demandé de faire remplacer en urgence leurs cartes SIM. Reportage à Séoul de Célio Fioretti.
Depuis le début de semaine, des millions de Sud-Coréens font la queue devant les magasins de téléphonie. Inquiets de voir leur numéro de téléphone tomber entre les mains de pirates informatiques, ils sont venus demander un remplacement gratuit de leur carte SIM. Une opération coûteuse pour l'opérateur SKT qui accuse une perte sèche de près de 650 millions de dollars et voit le départ de nombreux clients vers la concurrence. De leur côté, les clients sont inquiets et en colère comme cette jeune femme.
Il y a une pénurie de cartes SIM. Je suis sur liste d'attente pour pouvoir la remplacer. J'ai très peur d'être piratée avant de pouvoir remplacer ma carte SIM. Toute ma famille est client de SKT. On doit tous remplacer nos cartes.
L'origine de l'attaque informatique est encore inconnue, mais le ministère coréen des sciences et communications a ouvert une enquête qui devrait prendre 1 à 2 mois avant d'aboutir. L'administration accuse également SKT de n'avoir pas suffisamment investi dans la protection de son système informatique et d'avoir tardé à annoncer être victime d'un piratage. Près de 2 jours de retard qui auraient pu être précieux pour retrouver les malfaiteurs.
C'est Lio Fioretti à Séoul. La Corée du Sud s'enlise un peu plus dans la crise politique à un mois des élections anticipées. Le pays change une nouvelle fois de dirigeant. Le ministre des Finances, Choi Sang-mok, hérite des fonctions de président et de premier ministre après la démission du dirigeant par intérim Han Duk-soo, qui devrait se présenter aux élections le 3 juin. En revanche, le chef de l'opposition, Lee Jae-myung, candidat favori de la présidentielle, pourrait être empêché de se présenter. La Cour suprême vient en effet d'annuler sa relaxe dans une affaire d'infraction à la loi électorale. La météo, demain le beau temps dominera encore, mais le ciel sera voilé sur la moitié ouest, les nuages gagneront du terrain et des averses orageuses toucheront le sud-ouest l'après-midi. Il fera chaud, entre 9 et 16 degrés au petit matin, 18 à 26 l'après-midi sur le littoral, 24 à 30 ailleurs.